L'envie de lire.
Radio Shalom, Dijon.
Vous êtes dans votre émission L'envie de lire sur Shalom Bourgogne et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Josiane Sbero-Agna pour un livre qu'elle a sorti en 2023 aux éditions Ballan, L'école de l'exil, tribulation méditerranéenne. Bonjour Madame Sbero.
Bonjour Thierry et bonjour la Bourgogne.
Je vous en prie. Je voulais donc souhaiter que vous présentiez rapidement votre livre qui fait suite à un passage à Dijon dans le cadre d'une conférence que vous avez fait dans le cadre de l'association France-Israël. C'est l'histoire de votre vie dont j'aimerais que vous retraciez en quelques mots les principales étapes de votre enfance en Tunisie, protectorat français, à la France d'aujourd'hui, en passant par une période très riche dans un kibboutzim en Israël. Quelques mots tout de suite sur ce parcours, Josiane.
Alors en effet, pour moi c'était un parcours tout à fait normal puisque c'était ma vie et j'ai été très étonnée à la sortie de ce livre. J'ai été très étonnée du reste, pourquoi ce livre ? En fait, ce livre n'était pas destiné à l'édition. J'écris beaucoup, mais habituellement j'écris plutôt des articles de réflexion politique, etc. Et ma vie est quand même assez particulière, je le découvre à la lecture de ce livre, les retours qui me sont faits qui sont incroyables. Mon petit-fils à 13 ans me dit un jour, avec un doigt accusateur, « Mamie, tu parles plusieurs langues. Quelquefois, quand vous êtes à table les uns et les autres, avec papy, vous parlez de pays que je ne connais pas. Pourquoi ?» Et en brandissant un petit doigt accusateur vers moi, et inquiet, il me dit « Mais en réalité, mamie, tu es qui ?» C'est vrai que les Juifs d'Afrique du Nord, quand nous avons fait notre Alia en France, puisque je parle de Alia, ça a été une montée spirituelle vers la France, nous avons découvert le drame de nos frères ashkénazes et nos pertes de moyens, de biens, etc. C'était tellement ridicule à côté que nous n'avons pas ouvert la bouche. Dans un second temps et problème, nous avons tout de suite pensé que l'important était d'éduquer nos enfants, de leur ouvrir des voies dans la société, et des voies dans la société française, puisque nous étions ceux qui avions décidé de rester en France et non d'aller en Israël. Eh bien, ces enfants-là, je me suis rendu compte par l'inquiétude de mon petit-fils qu'en réalité, nous les avions coupés de leurs racines et que nous avions peut-être fait une erreur, la même erreur pendant 40 ans, que celle qui a été réalisée par nos frères Ashkenazim, qui pendant 40 ans n'ont pas parlé de leur épreuve. Et nous n'avons pas parlé non plus de nos origines. Donc les uns et les autres, le silence juif, qui est en réalité une forme de morale, ne pas traîner derrière soi des drames. J'ai été enfermée pendant 3 mois durant la Covid que j'ai eue très très violemment. Et pendant ces 3 mois, d'une traite, j'ai écrit ce qui est devenu un livre. J'ai fait des photocopies pour des amis, des collègues de mon collège. Et les photocopies ont couru les rues, les amitiés, les bouches à oreille. Et j'ai reçu un soir un message absolument magnifique des éditions Ballan me disant « Madame, tout ce qui comporte la sociologie, l'histoire, les drames, les voyages du peuple juif, nous les avons découverts dans votre livre. C'est un livre, et avec ces termes-là, que tous les goïms doivent avoir lu. Accepteriez-vous de signer un contrat ?» J'ai donc signé un contrat. Et les éditions Ballan, alors que je l'avais appelé Atavisme d'errance, les éditions Ballan ont décidé de l'appeler L'école de l'exil, puisque j'ai un chapitre très important dans ce livre qui raconte comment la vie d'un juif itinérant. La vie d'un juif, juif errant, peut devenir utile pendant 30 ans à des enfants maghrébins du rapprochement des familles à l'école. Et ce chapitre a tellement frappé que c'est devenu, pour les éditions Ballan, le titre du livre. Alors ce livre, on ne le trouve pas dans les librairies, les éditions Ballan sont trop petites pour pouvoir diffuser, mais par contre, il suffit de le commander dans une librairie ou chez Amazon et on l'a tout de suite. Ce livre a déjà été épuisé et réédité. Il fait un tabac par le bouche à oreille que je ne m'explique pas encore. J'ai reçu des messages de militaires. C'est surtout chez les non-juifs que ce livre a une empreinte absolument terrible. Hier encore, je suis descendue sur le parking, j'habite dans un quartier très ethnique, très, très multiculturel, ça ne me gêne pas, j'ai l'habitude. Et un voisin me dit « Ah, je voudrais vous parler. De quoi ?»« Vous savez, j'ai lu votre livre. » « Ah bon ?» Alors là, la surprise pour moi dans un endroit comme cette résidence où je vis. « Madame Sbéro, j'ai adoré. D'abord, parce que vous racontez une Tunisie dont on ne parle jamais, où il y avait tellement de bonheur d'enfance, de réjouissance, de vie d'enfance. Et ensuite, vous racontez quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. C'est quoi ce kibboutz? C'est quoi ces fermes collectives? Pourquoi on ne nous en parle jamais? » Vous voyez, ce genre de réaction me dit « Merci mon petit Mahor de m'avoir fait écrire, parce que ce genre de réaction est quotidien. J'ai une encyclopédie de réactions de non-juifs et je me dis que c'est peut-être utile, même si ce livre n'a eu aucune promotion, parce que sorti une semaine avant le 7 octobre, alors qu'il parle des kibboutzim de Gaza. »
Bien. Vous avez fait le lien avec l'école, enfin le titre qui a été choisi par Balan. Évidemment, nous y reviendrons dans une autre émission pour parler de votre rapport à l'école publique, à l'éducation nationale, qui est le cœur de votre vie. En tout cas, le temps que vous avez passé dans cette institution est le plus important, je crois, de vos activités professionnelles et humaines. Mais avant, peut-être quelques mots sur votre enfance et le rapport entre votre enfance et aujourd'hui, notamment dans votre volonté de continuer à travailler dans le sens de l'ouverture et de l'intégration de tous les enfants d'immigrés récents, sans édulcorer par ailleurs l'antijudaïsme et la transmission de l'antijudaïsme et de la dhimmitude.
Vous avez raison. Cette enfance, je suis très positive. Je suis toujours dans le sourire et dans le constructif. Cette enfance, j'ai eu la chance d'appartenir à une famille extrêmement connue dans le Grand Sud de Tunisie, mon père ayant eu le privilège de l'alimentation des troupes de France tout le Sahara. Nous avions une vie extrêmement privilégiée dans une minuscule petite ville qui était une garnison. Et donc nous étions très peu de juifs. Je ne me suis pas rendu compte en tant qu'enfant privilégié que c'est parce que j'étais privilégiée qu'en tant que juive je pouvais vivre parmi ces Français de souche, parmi ces militaires, ces hauts gradés que nous recevions à la maison. Et il a fallu longtemps après, des années après, quand j'étais au kibboutz, pour rencontrer des enfants juifs de cette petite ville de Gabès qui, eux, avaient été dans cette fameuse école juive dont je parle dans mon livre. L'école juive, c'était là, au fond de la cour. Nous n'avions pas le droit de leur parler. C'était des enfants qui n'avaient pas le droit à l'entrée par la même porte d'école que nous, qui devaient faire un grand tour par l'oasis et entrer par une porte dérobée. Des enfants craintifs. J'ai découvert la judéité de ces enfants et je m'en suis voulu d'appartenir à une famille tellement favorisée que je pensais qu'être juif, c'était tout à fait normal. J'ai connu dans cette petite ville la colonisation française, un peu ostraciste, un peu sélective, mais qui m'a tellement apporté sur le plan culturel, sur le plan de la connaissance de la culture. Je n'ai pas de reproche à faire. Nous avons ensuite déménagé à Sousse dans les années 50 parce que mon père était obnubilé par la qualité des études. Et un collège complémentaire ne lui suffisait pas, comme à Gabès. Donc il a tout bradé. Il a bradé son entreprise, son négoce, il a tout bradé pour permettre à ses six filles d'atteindre des collèges de sélection et de qualité à Sousse. À Sousse, j'ai découvert l'autre aspect de la France, c'est-à-dire une France où, dans ma classe, nous étions 30% de musulmanes, c'était un collège de jeunes filles, 30% de juives et 30% de ce que l'on appelait les cathos. On n'appelait pas ça les Français, on les appelait les cathos. Mais c'était extraordinaire. De la sixième à la seconde, j'ai connu une vie où réellement j'ai découvert que c'était un pays multiculturel, un pays où on vivait ensemble. Les petites jeunes filles musulmanes n'étaient pas du tout voilées comme en France. Elles arrivaient avec juste un petit voile sur la tête et qui couvrait les yeux, qu'elles retiraient immédiatement en entrant au collège. On se recevait mutuellement dans les maisons, on se fréquentait ensemble, on se retrouvait à la plage. Mais c'était une vie où il ne venait pas à l'idée de l'un d'entre nous de dire « je suis juif, il est musulman, on allait à l'église sans problème pour assister à des processions. Le 15 août, c'était la grande procession dans les rues. » C'était vraiment une vie intense de partage. Et cette France-là, je l'ai beaucoup aimée. 56, ça a été l'autonomie de Mendès France, puis l'indépendance. J'étais en seconde, mais j'appartenais déjà à ces mouvements de gauche, de jeunesse juive de gauche, qui étaient très répandus en Tunisie. Contrairement à ce que l'on pense, en Tunisie, la communauté juive était très fréquemment, en tout cas pour la communauté intellectuelle, les avocats, les médecins, les enseignants, 25 000 enseignants juifs tunisiens en Tunisie. La gauche était très répandue. Parti socialiste, bien entendu, la Chomer HaTzahir et le Dror pour les jeunes en mouvement de jeunesse. Et donc, dans ces mouvements, on nous parlait effectivement de l'Alia dans les kibbutzim. On ne parlait pas d'Alia en Israël, mais c'était l'Alia en kibbutz pour aller construire le pays. Livnot Velei Banot Ba, c'est un pays que nous allons construire, mais qui va nous reconstruire également. Donc à 15 ans, quand j'ai dit à mon père, c'est fini pour nous ici, il faut partir, mon père m'a répondu, l'argent gagné sur une terre appartient à cette terre. Résultat des courses, nous avons joué le positif négatif des Ashkénazes. Mon père était positif, sa tombe est à Sousse, n'a plus de pierre tombale, les os sont à l'air libre, et c'est dramatique. J'étais négative, je savais qu'il fallait partir. Et donc, avec les 35 jeunes de la Chomer HaTzahir, effectivement, nous sommes partis vers le kibbutz. Et nous avons connu, pendant quelques années, ce kibbutz des années 55, où il n'y avait rien. Au kibbutz Karmia, qui a été fondé par des juifs tunisiens, très souvent après une journée de travail, le trésorier nous disait, « Khaverim, camarades, aujourd'hui, il n'y a rien à manger. » Le pays était d'une pauvreté extrême. Nous avons travaillé de nos mains, nous avons construit des routes. Je raconte dans mon livre que nous avons mis une semaine à pied de Beersheba jusqu'au lieu où on allait reconstruire un kibbutz biblique qui s'appellerait En Gedi. Mmh. En Gedi est un des kibbutzim les plus luxueux aujourd'hui d'Israël. Je n'y ai jamais mis les pieds, c'est trop cher. Mais qu'est-ce fait pour En Gedi ? Et bien, au bout d'une semaine, nous sommes arrivés avec 200 enfants du kibbutz Nekba pour leur bar mitzvah. C'était ça qu'ils fêtaient, connaître ton pays avec tes pieds. Nous avons donné 3 jours de travail à creuser avec les mains. Nous n'avions pas d'outils à creuser avec les mains pour extraire les pierres de la terre de ce qui un jour deviendrait un kibbutz. On extrayait ces pierres et on les mettait sur la tombe des jeunes soldats qui avaient été tirés comme des lapins du côté de la Jordanie. Mais c'est extraordinaire. Comme récompense, ensuite, nous sommes allés à pied jusqu'à Matsada. Qui avait entendu parler de Matsada en 55? Mais Matsada, il n'y avait rien. On ne pouvait pas escalader. Donc ce sont des soldats alpinistes qui étaient là-haut et qui, les 200 gamins et nous, nous ont tirés avec des cordes au sommet pour nous raconter l'histoire de Matsada. Et au sommet de Matsada, ces 200 jeunes bar mitzvah du Nekba, c'était des kibbutzim non religieux, mais leur bar mitzvah, c'était en haut de Matsada, après avoir creusé les pierres d'En Gedi, ils recevaient leur médaille de bar mitzvah de kibbutz. Que voulez-vous, quand on a connu le pays de cette façon, on tire le chapeau et on dit ce pays, ils l'ont fait de leurs mains. Quand j'ai voulu reprendre mes études, je suis peut-être trop longue, quand j'ai voulu reprendre mes études, pourquoi ? Parce qu'un chaver du kibbutz qui s'appelait Zalman, qui avait les deux pieds gelés, qui s'était sauvé d'Ukraine à pied pour protéger son petit frère, et les deux pieds gelés, donc Zalman ne pouvait rien faire d'autre que d'étendre la lessive. Et il me disait, Rochele, je m'appelle Rachel là-bas, j'avais changé de nom. Rochele, mais qu'est-ce que tu fais à planter des carottes toute la journée? Tu es jeune, regarde tes chavirim dans le kibbutz, tu as des chefs d'orchestre, tu as des médecins, tu as des chirurgiens. Et toi, qu'est-ce que tu es, Rochele? Une planteuse de carottes? Va reprendre tes études. C'est un travers kibbutz qui m'a dit « Tu dois reprendre tes études. » J'ai donc quitté le kibbutz. Et là, je n'étais plus une pionnière du MAPAM. Je devenais une émigrante de Tunisie, célibataire, sans enfant. Et là, on m'a dit « Ta place, c'est Kiryat Gat. » Je suis donc allée à Kiryat Gat avec mon petit bagage. Tout cela, je le raconte dans mon livre. Et Kiryat Gat, c'est où? On m'a dit, c'est là. J'ai dit, mais où là? Ben, c'est là. Mais là, il n'y a que des dunes de sable. Tu reconstruiras la ville. Voilà ce que je voudrais dire aux frères palestiniens. Au kibbutz, je travaillais sans outils avec mes mains. On arrachait les pierres à la terre avec les mains. On désherbait les carottes sur des hectares, assis sur des toiles de jute, avec les mains. Et je voudrais dire à mes frères palestiniens, c'est inutile de dire, c'était ma maison, c'était ma maison. Quand je suis arrivée à Kiryat Gat, On m'a dit, cette ville n'existe pas, tu la construiras. Je rappelle quand même qu'à Kiryat Gat aujourd'hui, il y a le siège social d'Intel. Donc, cette présence en Israël pendant ces années de construction du pays me permettent d'être très, très tranquille dans ma vision des relations avec le monde palestinien, etc. Je leur dis quand même que moi j'ai découvert là-bas qu'en 1920, le pays n'existait pas. Mais le syndicat, la Sornout, existait déjà. L'université de Jérusalem existait déjà. Il y avait les fondements du pays. Donc, M. Abbas, je lui dis très gentiment, où sont les fondements de votre pays? Les avez-vous construits? Les avez-vous prévus? La haine ne suffit pas. Donc, si vous voulez, mon éducation de gauche, ma vie au kibbutz, et les kibbutzim de Gaza, dont on a tellement entendu parler, où oui, nous étions amis, mais il y avait les fédayines tous les soirs. Les fédayines venaient nous brûler les bananeraies, venaient nous brûler tous les soirs. Je n'avais que 16 ans. Et nous étions tenus de faire la garde comme tout le monde. Puisque nous étions des pionniers, nous étions membres du kibbutz. Faire la garde dans ce grand désert, tout noir, ça consistait à rester de l'autre côté de la barrière du kibbutz, avec un ouzi sur l'épaule, à 100 mètres les uns des autres. Et notre rôle, c'était, si nous étions attaqués, tirer un coup de fusil. C'est tout. On savait que personne ne viendrait nous aider. Vous savez, ça forme la personnalité. Et je pense que ces 3-4 ans des kibbutzim des années 50 ont fait de moi ce que je suis devenue, c'est-à-dire une battante qui, à aucun moment, n'a aucune haine vis-à-vis de personne, qui comprend la problématique de chacun. Mais quand des amis tunisiens me disent « le colonialisme », je dis « chers amis tunisiens, le nom de famille que je porte me prouve que je suis en Tunisie depuis beaucoup plus que des centenaires. Nous, les Juifs tunisiens, surtout ceux du Sud, nous sommes les autochtones de ce pays. Nous étions des Berbères, nous étions des Phéniciens, nous sommes venus là. Mais quand vous avez envahi le pays en l'année 600, vous nous avez colonisés. Quand il a fallu partir, quand vous n'avez plus voulu de nous, puis nous sommes partis. On n'en fait pas un drame. On reconstruit ailleurs. Donc quand on me parle de l'humiliation islamiste, musulmane, palestinienne, je dis stop là. À moi, vous ne le ferez pas. J'ai connu toutes les humiliations. J'ai connu mon arrivée en France en tant que simple Tunisienne. Pendant 5 ans, sans papier, l'interdiction de travailler, parce que mon mari voulait rester en France. J'ai connu toutes ces humiliations. J'en ai fait des constructions. Chers frères musulmans, chers frères arabes, chers frères palestiniens, construisez, cessez de vous plaindre. Et c'est ça l'objectif de mon livre. J'ai voulu simplement dire, frères humains, la construction n'est pas la haine, n'est pas l'humiliation. Et c'est mon combat. Je suis vice-présidente au national de l'Alliance France-Israël, qui est une association qui est née en 1926, créée par la France, et qui est une association d'amitié entre les peuples. La haine que je vis en ce moment en France me fait une peur terrible pour mes petits-enfants qui sont tellement intégrés que je ne peux même pas me permettre de leur expliquer « Faites attention les enfants, faites attention quand vous parlez, ils ne comprendraient pas. Nous en avons fait de petits Français républicains et qui n'ont aucune crainte, aucune frayeur. » Mais alors là, j'en appelle à la France en disant « Eh, France républicaine, tous les citoyens de la France ont le droit à cette protection que certains juifs, que de nombreux juifs, de plus en plus nombreux, vont chercher en Israël. »
Josiane Sbeirou, je vous propose qu'on reste là concernant votre livre, dont je rappelle le titre, « L'école de l'exil », sous-titre « Tribulation méditerranéenne », paru aux éditions Ballant 2023. Vous avez, dans la dernière partie de votre intervention, évoqué la France, évoqué l'éducation, votre arrivée en France et ensuite ce dont nous allons parler dans une autre émission qui sera consacrée à l'éducation nationale. Je voulais vous remercier vivement de votre intervention sur Shalom Bourgogne pour présenter votre livre, donc, dont je rappelle le titre « L'école de l'exil aux tribulations méditerranéennes » chez Ballant, paru en 2023. À très bientôt.
Que l'on peut commander.
Et on peut le commander donc sur Amazon ou dans,
et dans toutes les librairies.
Toutes bonnes librairies, bien sûr. Ça va de soi. Donc, vous étiez dans votre émission L'envie de lire sur Shalom Bourgogne. À très bientôt.
L'envie de lire.
Radio Shalom, Dijon.